Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
Bonjour à tous sur Radio Crésus. Aujourd'hui, une toute nouvelle émission, le point d'expert de la Radio Crésus. Avec nous, Laurent Gauthier, dirigeant de la société de conseil SPE qui traite des produits titrisés toxiques. Également, Mathieu Arias, chargé de mission de la plateforme d'accompagnement budgétaire de Crésus. Et à l'antenne, Régis Alter de Crésus Alsace. Alors, la question, la thématique du jour, c'est la question de la crise bancaire. Et bien sûr, la première question qui nous vient à l'esprit, est-ce que la crise bancaire que nous vivons aujourd'hui actuellement est comparable à celle de 2008 ? Laurent Gauthier.
Bonjour.
Bonjour.
Il y a de nombreux aspects qui convergent avec ce qu'on a vu en 2008 et en premier lieu, la logique même de la crise bancaire qui est un défaut de confiance des acteurs financiers, du marché, d'autres banques envers quelques banques. Et ce qui s'est passé en 2008, c'est qu'on avait, à cause des fameux subprimes américains, on avait des pertes de peut-être 2000 milliards d'euros qu'on ne savait pas qui allait devoir absorber ces pertes. Et c'est pour ça que, dans le doute, eh bien, on se méfiait de tout. Et c'est ce qui avait vraiment provoqué le départ de la crise à ce moment-là. Et ce qu'on traverse aujourd'hui, c'est un aspect un peu comparable où de nombreux acteurs financiers estiment que, eh bien, les créances de dettes grecques, par exemple, détenues par les banques françaises, ne sont pas forcément évalué correctement par ces dernières. Et on se demande à ce moment-là, oui, mais alors, est-ce qu'ils ne risquent pas de perdre beaucoup plus que ce qu'ils disent qu'ils vont le perdre ? C'est vraiment de là que naît une crise bancaire typique. Et à partir de là, qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien, les banques en question peuvent avoir du mal à trouver des financements. Et pour une banque, ne pas trouver de financement, c'est très dangereux, puisqu'elles ne peuvent plus prêter, ça arrête leur activité. Et on a eu des nouvelles il y a quelques jours où des gens à la BNP disaient qu'ils n'avaient plus accès au marché de financement en dollars, par exemple. Bon, c'est un peu, on voit des parallèles avec ce qu'il s'était passé en 2008 avec Bear Stearns et Lehman Brothers, qui donnaient les mêmes signes à ce moment-là. Mais alors maintenant, il y a une énorme différence avec la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qui est que l'État français, par exemple, ne va pas laisser faire faillite une grande banque, à mon avis en tout cas. Ce serait bien trop dangereux et dans l'intérêt de personne. Et du coup, on a le filet de sécurité, effectivement, qui est une grosse différence. Alors, oui, certains, de nombreux investisseurs vendent les titres des banques et veulent comme ça s'en débarrasser, mais je ne pense pas que fondamentalement il y ait un très très gros risque économique derrière tout ça avec les banques françaises.
D'accord. Alors fondamentalement, c'était vraiment une crise de confiance, on va dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne donne plus de crédit, si je puis dire, aux banques.
C'est le risque, c'est qu'elles n'aient absolument plus de crédit. Elles en ont un peu moins que ce qu'elles voudraient avoir aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on puisse dire que le crédit s'est totalement arrêté pour ces banques-là. Enfin, en tout cas, selon leurs informations à elles.
Alors, dans le cadre effectivement des activités que peut mener Crésus, la question que nous pouvons nous poser, c'est qu'on entend de plus en plus dans l'actualité des termes de surendettement, de faillite, mais qui concernent les États souverains. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle entre un particulier qui est en état de surendettement avec un État souverain ?
Alors, c'est effectivement une question très intéressante à se poser, puisque il pourrait sembler a priori qu'il y avait une différence fondamentale. Historiquement, les États, lorsqu'ils devaient trop d'argent à quelqu'un, eh ben, ils se débarrassaient de la personne. Et du coup, les problèmes étaient résolus très facilement de cette manière-là. On peut penser à nos bons exemples, Philippe le Bel, les Templiers, enfin bon, il y en a foison. Mais aujourd'hui, on réalise clairement que ce n'est plus le cas, puisque l'État grec, par exemple, est obligé de faire des concessions par rapport aux exigences des banques privées européennes qui lui ont avancé des fonds et de nombreux investisseurs divers et variés. Et puis, là-dedans, tout ça, évidemment, la banque, le gouvernement européen. Il y a une convergence un peu des situations. Voilà, le débiteur étant en un sens à la botte du créancier obligé de faire des concessions. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment en droit de se poser la question de cette convergence de situations. Il y a toutefois une grosse différence qui est, à mon sens, hein, bien que un État souverain ait une durée de vie infinie et puisse se permettre de planifier comme ça à très long terme le moyen de faire des économies pour rembourser des dettes. ce n'est pas aussi simple pour un État souverain de tout d'un coup d'augmenter ses revenus ou de baisser ses dépenses. Enfin, il y a des émeutes, ça ne se fait pas comme ça. Alors que, ça peut être sûrement le cas, dans le cas d'un individu, le fait de revoir son budget, on peut souvent trouver, j'imagine, des moyens de réduire ses dépenses qui ne sont pas si compliquées que ça. Je pense que dans le cas d'un État souverain, ce n'est pas aussi facile que ça, et c'est la grosse différence.
Alors, est-ce qu'on peut comparer finalement les États souverains à nos retraités qui ont leurs ressources qui sont fixes et qui ont même tendance à perdre leur pouvoir d'achat parce que les dépenses augmentent, mais les revenus sont toujours les mêmes.
Alors, je trouve que de ce point de vue-là, oui, mais il y a en plus un autre aspect qui peut être intéressant, c'est qu'un retraité aura probablement plus de biens, d'actifs à son nom que quelqu'un qui est jeune, parce qu'il aurait eu toute sa vie pour accumuler des biens, possède peut-être sa maison, donc a des biens. L'État souverain aussi, il possède des choses. Lorsque l'État grec vend des îles grecques, eh bien c'est un peu comme le retraité qui déciderait de vendre sa résidence secondaire, si vous voulez.
Tout à fait. Je voulais souhaiter revenir également sur une particularité. Est-ce qu'à l'heure actuelle, au niveau des emprunts d'État, on remarque effectivement des taux d'intérêt qui augmentent auprès des États souverains, que ce soit la Grèce qui se rapproche quasiment des crédits à la consommation aux particuliers, notamment sur la dette grecque, qui vient d'atteindre 19% de taux d'intérêt sur un ou deux ans à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut considérer maintenant que des emprunts qui seraient mis par ces États seraient aussi toxiques que des crédits à la consommation ?
C'est pas tellement une question de toxicité. En fait, on estime souvent dans le domaine des produits de taux ou de la trading de dette, si vous voulez, que bon, il existe forcément un taux, un rendement qui permette de faire un prêt. Et ça peut être un rendement gigantesque, de 70 ou 80% peut-être, mais il existe un tel nombre. Ça ne fait que refléter le risque de défaut et ce qu'on espère, récupérer comme fonds dans l'éventualité d'un défaut. Mmh. Lorsque vous parlez des prêts à la consommation qui ne sont pas collatéralisés par une maison, par exemple, en cas de défaut, on récupère une petite fraction, si on récupère quoi que ce soit sur un prêt comme ça. Dans le cas d'une restructuration de dette d'un État, on récupère en principe un morceau beaucoup plus gros du montant dû. Donc c'est quelque chose qu'il faut considérer dans cette équation, si vous voulez. C'est-à-dire que le taux d'un prêt à la consommation très élevé, vu qu'en cas de défaut on ne récupérera probablement rien, c'est vraiment, ce taux reflète strictement la probabilité de défaut. Mm-hmm. Dans le cas d'un emprunt d'État, vu qu'on va probablement récupérer un gros morceau, eh bien ça reflète une probabilité de défaut encore plus importante, en fait.
Mm-hmm. D'accord, ok, parfait, merci.
Bien, Laurent Gauthier, est-ce que vous avez encore des précisions à nous apporter, notamment sur, par exemple, les titres toxiques
Ah ben écoutez, c'est tous ces titres qui ont créé la crise en 2008, ces produits que détenaient les banques qui ont créé 2000 milliards de pertes et des poussières, ça continue à traiter de manière très active aux États-Unis. De nombreuses banques sont toujours très actives sur ces marchés-là, même des banques françaises d'ailleurs, qu'on ne s'entendrait pas avoir sur ces produits, et des fonds d'investissement, donc dans mon métier en tout cas, il y a toujours de quoi faire.
De quoi faire, donc la question n'est pas réglée encore aujourd'hui.
Disons que les pertes ont été reconnues et maintenant, oui. si vous voulez, on traite les restes de ces produits en un sens qui sont toujours très compliqués, très toxiques, mais au moins qui ont une valeur raisonnable. Ils ne sont plus surévalués par un multiple.
On pourrait les comparer à des déchets radioactifs.
Oui, si les déchets radioactifs avaient un intérêt, disons, intrinsèque à être détenus, oui, peut-être.
Bien, merci beaucoup Laurent Gauthier pour ces précisions et ce point de vue d'expert. Merci à Mathieu Arias et à très bientôt pour une prochaine émission sur le point d'expert. Au revoir.
Au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide.